Le texte que nous allons commenter se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 6 à 8, et puis versets 19 à 28. En voici la lecture. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Et voici quel fut le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu ?» Il le reconnut ouvertement, il déclara « Je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Non. » « Alors, es-tu le grand prophète ?» Il répondit « Ce n'est pas moi. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit « Je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu ? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Alors, pour aborder ce texte, je vous propose les trois clés traditionnelles de lecture de la parole de Dieu que nous ont transmis les premiers chrétiens, les pères de l'Église. Peut-être que vous êtes déjà familier avec ces sens spirituels si vous avez écouté d'autres enregistrements. Disons, l'avantage d'avoir recours à ces clés, ce ne sont pas des trucs, mais ce sont des choses que l'Église nous a transmises depuis ses origines. Ça nous donne des éclairages différents sur un texte et ça nous permet de voir des choses que l'Esprit veut nous dire que si nous n'avions pas recours à ces clés, nous n'aurions peut-être jamais vu. Alors, ici, là, commençons par, au fur et à mesure, je vais avoir recours à ces clés. Donc ici, le commentaire linéaire me paraît une bonne approche. Donc je vais avoir recours toujours d'abord à ce qui s'appelle l'interprétation morale ou anthropologique, celle qui est centrée sur notre vie intérieure et sur la vie quotidienne. Dans ce texte, ça paraît être le sens le plus évident. Et puis, il y a le sens allégorique, c'est-à-dire vraiment avoir dans l'idée Jésus, le Messie et son rapport avec l'Ancien Testament. Bon, ici, je veux dire que ça paraît aussi évident parce qu'il y a beaucoup de références à l'Ancien Testament. Et puis enfin, la clé anagogique, celle qui va au fond des choses, qui nous montre la fin ultime, le ciel, la fin des temps. Alors, il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. D'abord, ici, ce qui est beau, c'est que Dieu, dans le monde, agit par ses envoyés. Donc Dieu se rend présent dans le monde par des hommes, à l'image de Jean-Baptiste. On voit tout de suite le rôle que nous avons à jouer. Nous avons un rôle important à jouer par rapport à la révélation du Christ, parce que nous sommes envoyés par Dieu. Et Dieu appelle son envoyé par son nom. Chacun, dans notre personnalité propre, nous avons un rôle à jouer. Par exemple, le témoignage que moi je vais apporter ne sera pas le même que le vôtre, il ne sera pas meilleur ou moins bien forcément, il sera différent. Et si nous sommes, comment dire, dociles à l'esprit, il sera vraiment le témoignage que Dieu veut pour un moment précis donné. Et en plus, ce qui est beau, c'est que Dieu nous connaît personnellement. Nous sommes envoyés de Dieu, mais cette mission que Dieu nous confie est le fruit d'une relation personnelle avec lui, une relation où il nous connaît, par notre prénom. Son nom était Jean. Donc nous sommes envoyés, nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité de témoigner, elle est le fruit d'une relation amoureuse et personnelle avec notre Dieu, celle où Dieu nous appelle par notre prénom. Donc il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. C'est le grand but de notre vie. Le chrétien devrait, se distinguer par la finalité de sa vie. Sa vie, c'est rendre témoignage à la lumière et que tous par lui croient. Nous devons être comme des icônes. C'est-à-dire, une icône, qu'est-ce qu'elle fait? Ce n'est qu'une peinture. Mais derrière la peinture, elle révèle quelque chose de l'invisible. Eh bien, soyons comme des icônes, que notre vie soit d'une qualité imprégnée de l'esprit et qu'à travers cette vie, les gens distinguent la présence de celui qu'ils ne connaissent pas, de celui qui est caché, de celui qui est invisible, parce que le Seigneur a besoin de nous comme icônes. Donc nous sommes chargés de rendre témoignage afin que tous croient par lui. Que toute notre vie ait ce but vraiment comme finalité, comme centre. Voilà, cet homme n'était pas la lumière, mais était là pour lui rendre témoignage. Alors il faut bien s'entendre sur ce qu'est témoigner. Trop souvent, les chrétiens, nous-mêmes, nous pensons que, certes, nous avons une mission importante, comme je viens de le dire, comme ce texte nous le dit, mais nous pensons que tout dépend de nous, que nous devons, à la force du poignet, amener des gens à Dieu, que nous devons être parfaits. Et parfois même, nous avons tendance à nous mettre en avant, alors qu'il est bien dit ici, que nous ne sommes pas la lumière. Nous sommes là pour révéler quelqu'un de plus grand, un petit peu à l'image de quelqu'un qui parle d'un ami pour le faire connaître. Donc nous sommes là pour rendre témoignage, mais nous ne sommes pas la lumière. Alors, ça a plusieurs incidences. D'abord, quand nous essayons de témoigner du Christ, même si c'est en acte et pas en parole, est-ce que vraiment c'est dans un désir sincère de le faire connaître ou de nous faire connaître? Ensuite, nous ne sommes pas la lumière, donc ce n'est pas à nous d'éclairer. Nous sommes la lampe, si l'on veut, où on va poser la lumière. Mais la lumière, c'est le Christ. Donc souvent, notre témoignage ne sera pas aussi spectaculaire que nous le voudrions. Nous ne sommes pas appelés à faire des choses aussi extraordinaires que nous le voudrions. Parfois, c'est un témoignage silencieux, humble et aimant, et surtout priant. Et notre rôle est de nous effacer. Nous n'avons pas la première place. Mais d'un autre côté, c'est aussi plein d'espérance, parce que même si les fruits de notre témoignage ne sont pas évidents tout de suite, ayons confiance, ce n'est pas à nous de travailler en profondeur et fondamentalement dans le cœur de nos frères. Nous sommes là pour accompagner le travail du Christ, mais c'est son travail d'abord. Alors, cela nous permet de relativiser, disons, notre soi-disant inefficacité. Que cela ne soit pas une excuse, bien sûr, à ne pas faire d'efforts sur nous-mêmes pour avoir un témoignage cohérent, mais il ne faut pas s'attendre à ce que, parce que nous faisons des efforts, parce que nous nous sommes mis à prier sérieusement, tout de suite les choses arrivent. De toute façon, faisons ce que nous avons à faire, le Christ fait le reste, il fait l'essentiel. Ensuite, ici, si on a recours à l'interprétation allégorique, c'est intéressant parce que Jean-Baptiste est vu dans le Nouveau Testament comme le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, si l'on veut, celui qui clôt l'Ancienne Alliance. Et l'Ancienne Alliance, c'est la religion sans le Christ, qui prépare la venue du Christ. Donc à travers Jean-Baptiste, c'est tout l'Ancien Testament et même toutes les religions sans Jésus qui sont visées. Ces religions ont un rôle. Ces religions ont le rôle de préparer les gens, de faire que les gens enfin se tournent un peu vers le ciel et pas toujours par terre ou dans notre vie matérielle. Mais ce n'est pas la lumière. Ce n'est pas la pleine lumière du Christ. Tout comme l'Ancienne Alliance est essentiel, mais il lui manque le sceau définitif de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, de Jésus. Car seul Jésus révèle pleinement qui est Dieu et lui donne un visage humain, un visage que nous pouvons contempler, que nous pouvons toucher. Et c'est important parce que dans le rapport, on va le travailler plus tard dans le texte, dans le rapport avec les autres religions, ça nous aidera à nous situer. Et puis enfin, cette histoire de cet homme n'était pas la lumière, donc Jean n'était pas la lumière, mais c'était là pour lui rendre témoignage. Ici, Jean, on peut aussi le voir comme, c'est donc un homme comme nous. Jésus était pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu. Jean, il est tout comme Jésus, pleinement de notre race, mais il n'est qu'homme. C'est un symbole de cette vie, par rapport à la vie éternelle. Si on a cette clé analogique, anagogie qui vient du grec élévation. Si on a cette clé en tête, alors le texte prend aussi une coloration tout à fait particulière. Cette vie n'est pas une fin en soi, elle n'est pas la lumière, mais elle est là pour rendre témoignage au Christ. Elle est là comme le lieu de la rencontre. Elle n'a d'utilité véritable que si cette vie est le lieu de notre rencontre avec le Christ et avec nos frères. Cette vie est là pour que nous aimions Dieu et nos frères, et non pas pour que nous consommions, que nous achetions, et que nous soyons toujours rivés aux choses matérielles. Alors enfin, et voici quel fut le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu ?» Alors, d'abord, prions vraiment le Seigneur pour que nous soyons des témoins efficaces. Le véritable témoin est celui qui suscite des questions. Si nous vivons exactement comme les autres, parce que souvent nous avons tendance à penser qu'être témoin du Christ, c'est ne pas donner un visage rébarbatif des choses. Il faut épouser la mentalité de l'époque, savoir plaisanter. La joie chrétienne n'est pas d'abord rire de tout et n'importe quoi. La joie chrétienne est le fruit d'une vie différente, d'une vie qui a son centre ailleurs. Et si nous n'avons pas une qualité de vie différente, nous, les gens ne se poseront pas de questions, nous voyons. Il faut vraiment que notre relation avec le Christ soit vraie pour qu'elle déborde dans une vie qui tranche des autres. Mais c'est d'abord dans la prière que ceci s'acquiert. Qui es-tu ? Et c'est justement notre rôle d'icône. C'est pas que les gens nous admirent en tant que tels, mais c'est que les gens, en nous voyant, perçoivent qu'il y a quelque chose de différent qui motive notre qualité de vie. Alors, vraiment, ayons à cœur de prier et que cette prière se prolonge dans notre vie par une vie différente, un amour de qualité qui fait que les gens se poseront des questions en nous regardant et pas forcément en nous entendant. C'est d'abord un témoignage du comportement qu'il faut. Alors Jean-Baptiste le reconnut ouvertement et déclara « Je ne suis pas le Messie ». On en revient à la même chose que tout à l'heure. Nous ne sommes pas le Messie. Nous ne sommes pas là pour nous faire admirer. Ce n'est pas nous qui sommes le Rédempteur, ce n'est pas nous qui avons la vérité. Nous sommes là pour révéler quelqu'un de plus grand que nous. Le Messie, c'est Jésus. Et l'Église, parce qu'on peut élargir la perspective, l'Église, finalement, dans toute son histoire, a commis très souvent cette erreur de vouloir se substituer à son Christ par sa tradition rituelle, parfois, etc. Quand le rite, quand certaines choses prennent le pas sur le fondement de la foi, qui est une relation personnelle avec le Christ, alors quelque part, l'Église, ou nous-mêmes, nous prenons pour le Messie. Et justement, la période que traverse l'Église, qui est une période de purification, où elle perd son pouvoir temporel et politique, où elle revient à ses fondamentaux, est salutaire. Parce que l'Église, petit à petit, à notre image, nous chrétiens individuellement, nous prenons conscience que nous ne sommes pas le Messie. Et alors, quel est notre rôle ? Notre rôle, c'est de prier et d'accompagner le travail tout-puissant de la grâce de Dieu. Et c'est ni plus ni moins, c'est énorme. Mais ce n'est que ça. Il faut vraiment, quand nous aimons, quand nous témoignons en actes et parfois en paroles, que nous soyons conscients que, que ce n'est pas nos paroles, nos actes qui sont tout-puissants. C'est le fruit de notre prière qui donne un espace de liberté à la grâce de Dieu, qui ainsi peut agir efficacement et puissamment, même si c'est parfois lentement, au cœur de l'humanité. Et c'est ça que l'Église doit comprendre. Une Église priante et aimante, pleine de charité et de prière, plutôt qu'une Église qui essaye par un pouvoir politique de forcer les choses. De nous-mêmes, d'ailleurs, dans notre vie, nous devons faire pareil si nous voulons être des témoins efficaces. Nous ne sommes pas le Messie. De même, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Notre témoignage ne portera pas les fruits que nous voulons au moment où nous le voulons. Si nous ne sommes pas le Messie, c'est à lui de faire le travail principal. Notre rôle est d'ouvrir la porte, d'aplanir le chemin du Seigneur, comme le dit tout à l'heure, comme va le dire le texte, citant le prophète Isaïe. Eh bien, nous sommes là pour aplanir les chemins, mais ce n'est pas nous qui devons marcher sur le chemin. C'est Jésus qui va marcher sur le chemin à son rythme dans le cœur de nos frères, dans le cœur de l'humanité. Alors ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Non. » Alors d'abord, il faut préciser que depuis le prophète Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, repris par le livre de la sagesse, il était courant de penser que la venue du Messie serait précédée par le retour d'Élie. Voilà donc pourquoi les pharisiens, les prêtres qui venaient de Jérusalem, les lévites aussi, lui demandent cette question qui peut nous paraître étrange. Et alors, Jean-Baptiste dit non. Pourtant, Jésus dira lui-même qu'il est Élie, si l'on veut. Mais ici, c'est important, parce que nous sommes uniques. Nous n'avons pas, nous avons des modèles, l'Église nous propose des modèles, mais nous devons vraiment avoir une relation personnelle avec le Christ qui va enrichir notre personnalité. Et c'est vraiment dans un témoignage unique où nous mettrons toute notre ardeur, tout notre cœur, ce que nous sommes, nous, je veux dire, de manière propre et unique, c'est dans ce témoignage personnel qu'est l'efficacité. C'est pas en essayant de copier d'autres, etc. Alors vous voyez, certes nous ne sommes pas le Messie, mais nous avons une mission unique. Voilà. Moi je suis moi, vous vous êtes vous, et bien que nous soyons nourris à la même source de la prière, de la rencontre avec le Christ, nourris, enfin désaltérés par l'eau de l'Esprit, eh bien, comme la Pentecôte, l'Esprit se sépare en des langues sur chacune des têtes, l'Esprit nous enrichit de manière unique et propre. Nous ne devons pas essayer de faire comme les autres. La comparaison engendre la compétition et il n'y a rien de plus désastreux quand il s'agit de la vie chrétienne. Nous pouvons certes nous émuler, nous stimuler les uns les autres, mais surtout pas nous copier les uns les autres à nous décourager. Et c'est aussi un appel à avoir une foi personnelle. On ne nous demande pas de reprendre la foi de tel ou tel saint, on ne nous demande pas d'avoir la foi de l'Église, fût-elle la foi de l'Église d'une manière théorique, d'avoir les rites qu'il faut, mais d'avoir une relation et une foi personnelle et réfléchie. Oui, nous ne sommes pas le prophète Élie, nous sommes nous-mêmes. Alors, es-tu le grand prophète? Il répondit, ce n'est pas moi. Là, de nouveau, il faut savoir qu'il était courant à l'époque de Jésus de penser que la venue du Messie serait la venue du grand prophète. Parce que dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18, Moïse promet qu'il y aura un jour un prophète comme lui. Donc on comprend aussi la question des prêtres et des lévites. Es-tu le grand prophète? Alors Jean-Baptiste dit non, parce que déjà le grand prophète c'est le Christ. Alors tout à l'heure je disais que nous ne sommes pas le Messie, mais ici le grand prophète ça met un accent sur le message. Ce n'est pas nos paroles, ce n'est pas notre message, ce n'est pas notre opinion qui est le grand prophète, mais c'est le message du Christ, son évangile. Alors faisons bien attention à ne pas véhiculer nos opinions propres sous couvert de la parole de Dieu. Nous avons un message à véhiculer qui nous dépasse et parfois dont nous ne sommes pas conscients. C'est pour ça qu'avant de témoigner en parole, il faut d'abord témoigner en acte et surtout prier. Que la prière précède notre action, notre témoignage en parole, si besoin est. La prière d'abord. Pour que vraiment nous soyons conscients que nous ne sommes pas le grand prophète, que nous n'avons pas forcément la vérité dans tous les détails, que nous ne soyons pas cassants et jugeant les autres, mais humbles. Humbles, frères parmi les frères, pécheurs parmi les pécheurs, nous ne sommes pas le grand prophète. De même, pour l'Église, et pour nous, c'est une leçon. C'est bien un message autre que le nôtre que nous avons à transmettre. C'est d'abord la parole de Dieu, avant les rites, etc. L'enseignement de l'Église, si il veut être tradition au sens noble du terme, doit être, nourri à la parole de Dieu. De même, nous devons nous nourrir à la parole de Dieu si nous voulons avoir un comportement et une parole vraie et conforme à l'esprit. De même, dans notre méditation de la parole, soyons toujours ouverts à l'Esprit Saint pour que vraiment cette parole de Dieu que nous lisons soit parole de Dieu et pas simplement un miroir de ce que nous pensons. Donc toujours lire la parole de Dieu dans la prière. Elle n'est pas là pour nourrir notre intellect d'abord, mais notre cœur, pour nourrir notre foi, notre relation à Jésus. Alors ils lui dirent, mais qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Alors après avoir insisté sur le fait que nous avons un message qui nous dépasse, que nous ne sommes pas le Messie, eh bien, nous avons quand même, ce texte nous dit que nous avons quand même un rôle important. Parce que être coopérateur du Christ, être ami du Christ, c'est en soi quelque chose de même bien plus grand que de se faire mousser personnellement. Donc, nous avons un rôle à remplir, il faut le prendre au sérieux. Parce que si notre témoignage n'est pas bon, nous sommes un obstacle au message du Christ. Si nous sommes nourris par la prière et que cette prière nous façonne et nous rend meilleur témoin à l'image de Jean, qui sait se mettre derrière le Christ, qui sait susciter les questions par un comportement et une charité de qualité, eh bien nous avons un rôle très important parce que les gens se posent des questions. Et alors toute notre personnalité prend du relief. N'essayons pas de nous donner du relief nous-mêmes en nous faisant mousser, etc., par, je ne sais pas, une connaissance, etc., supérieure, ou en pensant que nous avons la vérité comme si nous étions le grand prophète. Mais si nous sommes des témoins de qualité qui marchons côte à côte, ou plutôt, oui, côte à côte avec le Christ, mais légèrement en retrait, alors notre personnalité aura bien plus de relief, notre témoignage souvent silencieux et priant, et qui se passe de parole, sera bien plus efficace, et les questions surgiront. Mais qui es-tu? Parce que nous serons comme une icône du Christ, et alors notre personnalité prendra du relief, et alors plutôt que d'être un simple miroir dans lequel les gens se regardent, eh bien nous serons une porte ouverte sur quelque chose de plus grand. Alors, ici, de nouveau, je voudrais revenir sous l'interprétation allégorique. Voyez les religions, le judaïsme, eh bien, ce n'est pas le grand prophète, ce n'est pas le Messie. Voyez, elles sont là pour susciter des questions. Une religion est bien dans la mesure où elle ne nous ramène pas à ce que nous connaissons déjà dans la vie matérielle. Je pense aux nouvelles religiosités, comme le New Age et tout. C'est très à la mode, mais ces religions sont très dangereuses parce qu'elles nous centrent sur quelque chose de très matériel. Et elles flattent notre ego. Et le bouddhisme tel qu'il est compris en Occident, c'est la même chose. Et la réincarnation aussi. Parce que finalement, quand on regarde la réincarnation, elle nous renvoie toujours à la même vie, fondamentalement. Et alors, c'est dangereux. Une religion, elle est là pour nous lever la tête vers le ciel. Elle est là pour nous préparer. Pour préparer à la rencontre vers le Christ. C'est comme ça que nous devons voir les religions. J'y reviendrai plus tard. De même, cette vie. Cette vie n'est pas le Messie, cette vie n'est pas le grand prophète. Cette vie n'est pas une fin en soi. Nous ne devons pas vivre cette vie comme si elle était tout. Cette vie est préparatoire. Cette vie n'est pas le Messie. Cette vie, elle n'a sa densité que si elle est le théâtre, si elle est la scène de la rencontre avec le Dieu, si elle est là où nous, si elle est pour nous une occasion d'exercer notre liberté pour rencontrer pleinement et librement notre Seigneur. Voilà à quoi sert cette vie. Cette vie, donc, elle est importante à l'image de Jean. Mais qui es-tu sur toi-même? Que dis-tu sur toi-même? Mais elle n'est pas une fin en soi. Quelle tristesse de voir nos contemporains qui vivent comme s'ils ne mourraient jamais. J'ai du mal à imaginer comment ils vivront leur mort. Il y a deux solutions. Soit c'est la panique, ou alors, comme beaucoup de gens, ils vont se construire une espèce de réincarnation, une espèce de foi au rabais, où ils vont avoir l'impression qu'ils vont revivre la même vie toujours. Mais la vie que Jésus nous prépare est tellement différente, d'une qualité tellement autre. C'est ce que d'ailleurs dit Jésus en disant « Vous serez semblables à des anges ». C'est-à-dire que cela sera très différent. L'amour sera roi. Tout ce qui fait que parfois nous sommes méchants aura disparu, etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais il faut savoir vraiment que c'est important de nous souvenir que cette vie n'a de valeur pleine que si elle nous permet d'exercer librement notre charité envers Dieu et nos frères. C'est d'ailleurs très important parce que ça nous permet de relativiser beaucoup de choses. Et alors la joie chrétienne surgit. Parce que les obstacles que nous rencontrons ne seront pas vus comme des absolus qui peuvent nous écraser, mais comme des tremplins vers une meilleure rencontre de notre Seigneur. Et des tremplins qui nous feront sauter jusqu'au ciel. Alors revenons au texte. Que dis-tu sur toi-même? Alors Jean répondit, « Je suis la voix qui crie à travers le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Nous avons le rôle d'être une voix qui crie à travers le désert. C'est souvent l'impression que nous avons. Nous sommes appelés à être des témoins qui, en apparence, ne sont pas très efficaces. Souvent, le témoignage que nous sommes amenés à faire est un témoignage priant. Prier pour nos frères, leur témoigner de l'amour, discret et charitable, sans plus, mais c'est déjà énorme. Et le témoignage en parole, s'il vient, c'est avec beaucoup de patience qu'il faut le préparer, par une vie, un témoignage en acte et en prière. Et nous avons souvent l'impression qu'effectivement, les gens pour qui nous prions, les gens que nous aimons, c'est comme un désert. Rien ne se passe en eux en apparence, rien. Eh bien, il faut persévérer. Il faut persévérer et c'est par une intercession toujours plus fervente qui va toujours déborder par une charité plus ardente pour les gens pour lesquels nous prions, que nous aplanirons le chemin du Seigneur. Aplanir, et c'est la parole de Dieu qui le dit, le prophète Isaïe, donc c'est quelque chose de fiable. Aplanir le chemin. Soyons conscients, soyons vraiment convaincus que notre témoignage, aussi lent et discret soit-il, il est efficace. Il aplanit le chemin et ainsi la grâce du Seigneur, telle une rivière, coulera d'autant plus vite et plus facilement que nous aurons aplani le chemin par notre amour et notre prière pour nos frères. Et soyons-en convaincus, ça me fait penser à... je reprendrai cette image plutôt tout à l'heure. Mais soyons-en convaincus, en aplanissant le chemin, eh bien, le Seigneur arrivera à son but, qu'est la conversion de nos frères, la conversion de ce monde, de même en nous-mêmes. Nous sommes parfois peinés du désert que nous sommes par rapport à la grâce de Dieu. Nous sommes souvent si fermés. Mais soyons convaincus que nos efforts, nourris, soutenus, accompagnés par notre prière, vont aplanir les chemins. Et qu'un jour ou l'autre, tout ce qui faisait que nous sommes loin de Dieu va s'aplanir. Et alors le Seigneur pourra marcher dessus comme sur les eaux, comme sur les eaux de la mort. Alors soyons convaincus, redoublons d'amour et d'efforts et de prières surtout. Ne soyons pas découragés. Maintenant, si l'on passe de nouveau à l'interprétation allégorique, c'est-à-dire celle centrée sur le Christ, eh bien, comme le prophète Jean-Baptiste, eh bien, les religions, l'Ancien Testament, c'est un cri dans le désert. C'est-à-dire que les gens, en tant que tels, sont fermés très souvent à toute forme de spiritualité. Et je dirais que toute forme de spiritualité qui déjà met la semence de Dieu dans le cœur des gens est bonne à prendre. Alors notre rapport avec les religions doit être le suivant. Pas d'hostilité et de haine. Ne voyons pas les autres religions qui tournent vraiment, à condition qu'elles tournent vraiment les gens vers l'idée de Dieu, comme un obstacle, et ne nous lamentons pas. Mais d'un autre côté, ne pensons pas pour autant que toutes elles se valent. Soyons vraiment prions pour que les religions sachent occuper dans le cœur de ce monde la place qu'elles doivent avoir, c'est-à-dire un rôle préparatoire d'aplanissement du chemin pour qu'ils rencontrent le Seigneur. Donc vous voyez, quand nous sommes amenés parfois, on parle du dialogue interreligieux, c'est très dangereux, ça dépend. Il ne faut pas être cassant et désobligeant. Il faut reconnaître la part de vérité qu'il y a dans toute autre religion, c'est ce que nous dit le Concile Vatican II. Mais d'un autre côté, attention au relativisme. Nous devons beaucoup prier pour que ce que nous pourrons dire à nos frères, les contacts que nous pourrons avoir avec eux, nos frères de notre religion, puissent préparer le chemin. Mais nous devons bien sûr avoir ce but en tête, la pleine révélation pour eux de ce qu'est Dieu, c'est-à-dire le Christ qui a dit « Je suis le chemin, la vie, la vérité, nul ne vient au Père que par moi » dans l'évangile de Jean, justement. Donc vous voyez, ayons un regard bienveillant vers les autres religions, soyons décontractés et non pas crispés, mais fermes, toujours dans la prière et le témoignage en acte. Quand nous voyons des musulmans ou des juifs, par exemple, ce sont nos frères, bien sûr, mais n'oublions pas de prier pour eux. Ne pensons pas qu'ils ont leur religion, ça suffit. Ne cherchons pas à les convertir, à les convaincre, etc., à force d'arguments, ce qui serait désobligeant et ce qui pourrait les braquer. mais ayant toujours une qualité de vie qui leur montre que nous sommes habités par le Fils de Dieu. Et surtout, prions pour eux, pour que la grâce de Dieu travaille en eux, parce qu'ils sont, ils ont droit à la grâce du Christ, tout comme quelqu'un qui ne croit en rien. Alors, pareil, cette vie, hein, je suis la voix qui crie à travers le désert. Cette vie est souvent un désert. Moi, je suis surpris de voir tous ces gens, notamment en période de Noël, qui se jettent sur la nourriture, qui se jettent sur la consommation. C'est très bien de faire un repas de Noël, etc., une fête de famille. Mais quand vous regardez, les gens, c'est la course à la consommation, comme des petites fourmis qui s'agitent. Et très souvent, cela laisse un grand vide dans leur cœur, et ils sont comme dans un désert affectif. Eh bien, cette vie, elle n'a de valeur que si elle sert à aplanir le chemin du Seigneur. Il faut être conscient que cette vie est très importante, je le redis, dans la mesure où elle nous permet d'arrondir les angles, d'aplanir les chemins chez nos frères et chez nous-mêmes pour qu'ils rencontrent le Seigneur. Mais cette vie, je le répète encore, mais c'est important, n'est pas une fin en soi. Parce que si vraiment nous avons toujours les yeux tournés vers la terre, eh bien c'est un désert que nous aurons. C'est ce que traversent nos frères. Alors plutôt que d'être indifférent et de dire « bon, moi j'ai mon Dieu, je les respecte, qu'ils vivent leur vie », eh bien, soyons tristes pour eux et que cette tristesse se traduise en charité pour eux et en prière d'intercession fervente. Alors que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre dans quel désert nous sommes sans lui. Alors, or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu » Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. » Alors effectivement, ici, le texte nous rappelle que nous ne soyons pas ce que parfois nous voudrions être, le Messie, etc., notre rôle est important. Et nous avons une mission, Jean-Baptiste nous rappelle, c'est de baptiser dans l'eau. Pour Jean-Baptiste, baptiser dans l'eau, c'était faire que les gens reconnaissent leurs péchés. Eh bien, notre rôle, il est déjà, par la prière, d'ensemencer nos frères de la semence de l'Esprit-Saint qui, comme le dit Paul, est celui, et comme le dit Jésus dans l'Évangile de Jean, est celui qui convainc de péché. Si nous prions pour nos frères, la graine de la grâce est semée en eux, et alors elle grandira. Tout comme l'Église, son rôle est d'être ce levain dans la pâte qui va faire qu'elle lève et que les gens vont reconnaître leur péché. L'Église, c'est un peu ce poil à gratter, nous-mêmes aussi. Par notre prière, nous ensemençons des germes de Dieu dans le désert, des cœurs de nos frères, de nos propres vies et du monde. Ensuite, baptiser donc dans l'eau, c'est bien sûr par la qualité de notre vie, parce que nous sommes différents. Parfois, nous montrons aux gens, justement par un comportement différent, qu'ils n'agissent pas bien. Et alors, ils se posent des questions. Donc, prière et témoignage en acte, c'est comme un baptême dans l'eau. Et enfin, l'image de l'eau. Eh bien, que le Seigneur nous donne des larmes dans notre prière. C'est ainsi que nous baptiserons dans l'eau. Et que nous soyons vraiment tristes de tous ces gens qui sont loin de Dieu ou qui ne connaissent pas Dieu pleinement, comme dans les autres religions. Eh bien, nos larmes seront comme ce baptême de l'eau. Ce baptême de l'eau, donc, par notre prière et notre intercession fervente, et je vais prendre l'image de la graine qui pousse, eh bien, ces larmes, ça sera l'eau qui aidera ce germe de grâce qu'il y a en tout homme. Hein, c'est ce que dit le texte d'ailleurs. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Au milieu des cœurs de nos frères se tient Jésus, telle une toute petite graine de moutarde, comme il dit dans l'évangile de Marc. Eh bien, elle va pousser jusqu'à devenir un grand arbre, arrosé par les larmes de notre prière, de notre amour pour nos frères, jusqu'à devenir un grand arbre, ce qui veut dire la conversion pleine et entière, librement consentie de nos frères et de ce monde. C'est ce que vraiment nous devons viser, c'est ça baptiser dans l'eau. Nous devons vraiment demander au Seigneur qu'il nous donne cette compassion pour nous rendre compte dans quel désert vivent nos frères, que cela engendre nos larmes, que nos larmes coulent dans notre prière, que nos larmes se traduisent par une charité sur laquelle soient comme une vague sur laquelle notre charité surfera, c'est pour reprendre cette image de l'eau, et tout ça va faire que cette graine dont parle Jésus en Saint Marc, je crois au chapitre 6, va grandir, grandir, grandir dans le cœur de nos frères, dans le cœur de ce monde. Que cela nous donne un espoir. Nous avons une utilité. L'Église, malgré sa faiblesse, a une utilité. Elle baptise dans l'eau. Elle arrose cette graine de la grâce de Dieu qui pousse. C'est l'Esprit Saint qui grandit petit à petit dans le cœur de nos frères. C'est aussi le baptême de l'eau. Eh bien, c'est aussi tout ce qu'il y a de bon dans nos frères, tout ce que les autres religions ont pu semer. C'est aussi cette vie. Eh bien, nous devons ensemencer les autres religions. Nous devons ensemencer cette vie par des graines de spiritualité christique centrée sur le Christ, par la prière, la qualité de notre témoignage. Et écoutons la suite. « Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. » Eh bien, c'est ça le grand but de la vie. C'est d'apprendre à connaître de plus en plus celui que l'on ne connaît pas. Finalement, qu'est-ce qu'une relation amoureuse ? C'est de toujours connaître mieux l'autre. Eh bien, avec Jésus, c'est le tout autre. C'est la communion à l'état pur. Par Jésus, nous sommes appelés à enfin connaître de mieux en mieux, à toucher le tout autre. Et alors, vous voyez, la relation avec Dieu dans la foi chrétienne, parce qu'elle nous est révélée par Dieu qui s'est fait homme, par le Fils qui communie pleinement au Père, n'est jamais une religion fusionnelle. Nous allons, comme dans le nirvana bouddhiste et hindouiste, nous fondre et mourir. C'est une religion de communion, où nous allons vraiment, avec notre personne enrichie par la grâce de Dieu, communier au tout autre. Et je vous fais remarquer qu'ici on dit « se tient au milieu de vous celui que vous ne connaissez pas ». Le Seigneur est au milieu de ceux de nous et on ne s'en aperçoit pas. Bien que nous prions toujours davantage pour savoir reconnaître le Seigneur là où on ne l'attend pas. Parfois nous sommes désespérés, parfois nous pensons que certaines personnes sont très fermées à la grâce de Dieu. Eh bien non, le Seigneur est là. Parfois nous avons l'impression que nous allons déprimer, que le Seigneur ne nous aide pas, mais il est là. Et de même dans le cœur de nos frères, le Seigneur, eh bien, grandit par sa grâce dans leur cœur. Il germe petit à petit, même si eux ne le connaissent pas encore, que cela nous encourage à un témoignage toujours plus priant et aimant. Et de même dans les autres religions, eh bien, il se tient là, celui qu'ils ne connaissent pas encore. Dans cette vie, eh bien, le ciel est déjà là. Eh bien, nous sommes là pour vraiment faire grandir le ciel dans cette vie, faire grandir le Christ dans le cœur de nos frères et des autres religions. Et enfin, voyez ici, celui que vous ne connaissez pas. Par rapport aux autres religions, la foi chrétienne apporte Dieu pleinement, le tout autre. Seule la foi chrétienne a dans son message le grand prophète, celui qui est le tout autre. Pas une communion au rabais à l'image du bouddhisme et de l'hindouisme qui va déboucher sur une fusion. Pas une communion qui n'en est pas une avec un Dieu que l'on craint dans l'islam pour se soumettre, mais un Dieu que nous sommes appelés à aimer. Voilà vraiment ce que nous avons. Nous avons le pouvoir, nous avons la mission de révéler celui qui est tout autre, que l'on ne connaît pas forcément. Alors, après, vous avez cette parole de Jean-Baptiste. C'est lui qui vient derrière moi. Je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. Soyons conscients vraiment que Jésus, nous portons quelqu'un qui est totalement différent. Le Nouveau Testament par rapport à l'Ancien Testament. Vous voyez, l'Ancien Testament avait des germes, comme toute autre religion, avait des germes de vérité. Mais vraiment, la foi chrétienne, c'est le tout autre. C'est vraiment le ciel qui fait irruption sur terre. Eh bien, oui, c'est parce que tout simplement, quand on est chrétien, par notre prière, Dieu nous a donné le pouvoir d'ouvrir la porte à la grâce. Et ça, nulle autre religion n'est capable d'avoir cette grâce, d'être le torrent, d'être, comment dire, la porte qui fait, qui par son ouverture fait entrer la grâce dans ce monde. Eh bien, nous-mêmes aussi, soyons aussi conscients que notre témoignage doit rester à sa place. Un témoignage qui est là pour ouvrir la porte à qui est plus grand que nous. Vous voyez, parfois nous avons des paroles, des actes, et nous prions, et nous avons l'impression, à l'image de l'Église dans ce monde qui est devenu quasiment inaudible en apparence, nous avons l'impression que nous ne sommes pas très utiles. Eh bien, si nous sommes conscients qu'une ne sommes pas dignes de défaire la courroie de la sandale de qui vient derrière nous, eh bien, nous savons que ce témoignage que nous portons nous dépasse et que les fruits que ce témoignage, que cette prière que nous avons, que la mission de l'Église a, eh bien, nous dépasse infiniment et qu'il ne nous appartient pas de fixer le lieu et la date, de la conversion du monde, de la conversion de telle ou telle personne. Continuons simplement, comme Jean-Baptiste, à avoir ce témoignage, voyez. Sachons passer derrière le Seigneur. Alors, il vient derrière moi, dit Jean-Baptiste, mais pour que lui, Jean-Baptiste, comme il le dit plus tard dans l'Évangile de Jean, diminue pour que le Seigneur croisse, eh bien, sachons préparer le chemin au Seigneur pour après nous mettre derrière lui, pour que vraiment lui seul soit vraiment la lumière, lui, sur lui seul se braquent les projecteurs. Alors, voilà. Et donc, je le répète, hein, avec l'interprétation allégorique, toute spiritualité, toute religion, il lui, n'est quand même qu'un miroir de ce que les hommes pensent sur Dieu. Seul le Christ peut apporter Dieu dans une relation personnelle. Seul le Christ peut rendre Dieu vivant. C'est ça, les autres religions. Notre témoignage, s'il est basé que sur nos forces humaines, n'est pas digne de défaire la courroie de sa sandale. Parce que lui seul, parce qu'il est la grâce du Seigneur, il est l'action du Père, lui seul peut vraiment rendre vivant ce Dieu que parfois nous cherchons à rendre vivant par nos propres forces et c'est l'échec, ou que les autres religions essayent par leurs propres efforts de faire découvrir. Et cette vie, c'est pareil. Cette vie, en quelque sorte, n'est pas digne de défaire la courroie de la sandale de la vie éternelle. Cette vie n'est qu'une préparation et est bien fade par rapport à ce qui nous attend. Il faut en être convaincu, non pas pour nous détacher de ce monde, mais pour vraiment savoir prendre notre place, c'est-à-dire savoir aimer et nous investir mais avec du recul, sachant que nous préparons le chemin à une vie qui nous dépasse. C'est la manière la plus belle de se préparer à la mort, parce que si vraiment nous voulons, comme saint Paul, être impatients de rencontrer notre Seigneur et ne pas craindre la mort, il faut se souvenir que cette vie n'est pas digne de défaire la courroie de la sandale de la vie éternelle, et que ce qui nous attend est bien plus grand que ce que nous allons perdre. Et prions et agissons pour que notre vie vraiment montre aux gens qu'effectivement il y a quelque chose qui les dépasse et qu'ils sachent se tourner vers ce qui les attend, qui est bien plus grand que là où ils sont englués, ce désert dans lequel ils souffrent. Et enfin, nous avons la dernière parole. Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. C'est un rappel, justement. Hein, nous sommes appelés à avoir les yeux tournés vers le ciel, mais nous sommes appelés à avoir les pieds sur terre. C'est pour ça que ce texte nous dit le lieu et la personne qui occupe la place principale dans ce récit. Nous-mêmes, nous sommes appelés à agir dans nos Béthanies, par nos efforts, par notre charité vis-à-vis de telle ou telle personne bien précise, par une prière très précise pour telle ou telle chose, pour telle ou telle personne. Et nous-mêmes, par notre prénom, nous avons un rôle à jouer très personnel, en collaboration et en retrait, mais en collaboration tout de même avec le Seigneur. C'est aussi un appel pour nous rappeler que, bien que nous parlons de quelque chose qui paraît invisible, la grâce qui travaille dans le cœur de ce monde, par le témoignage de l'Église, qui travaille dans le cœur de nos frères, par notre témoignage et notre prière, la vie éternelle par rapport à cette vie qui nous paraît tellement plus concrète, eh bien, ou par rapport, par exemple, les gens qui ont d'autres religions, qui paraissent se satisfaire, alors que si nous grattons, il leur manque le Christ. Tout ça nous paraît bien abstrait, hein, cette grâce discrète travaille dans les cœurs, la vie éternelle, etc. Mais c'est quelque chose de bien concret. Ça prend racine maintenant, en Béthanie de Transjordanie. Notre prière, notre témoignage, il est efficace dès maintenant, même si c'est très lent, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Il veut travailler dans le cœur de nos frères en respectant leur liberté. C'est pour ça qu'il s'est fait homme, pour être homme parmi les hommes, et que ce soit un homme qui sauve d'autres hommes, ainsi la liberté humaine est préservée. Et nous sommes appelés, comme le dit saint Paul, à prolonger cette grâce du Christ, parce que nous sommes hommes Et par nous, Jésus continue son œuvre d'humanité. Il continue à sauver les hommes par les hommes. Alors c'est très lent. Ça demande beaucoup de prières, beaucoup de délicatesse, beaucoup de charité. Mais ça s'est passé à Béthanie de Transjordanie, de manière de nous dire que dès maintenant, ce que nous faisons, aussi discret cela soit, eh bien c'est efficace. C'est la première pierre, c'est la première semence, c'est le premier coup d'arrosoir à la semence. Mais cela va déboucher vers la victoire, au rythme de Dieu. Et voilà. Et donc pareil, cette vie est très importante parce que elle est le lieu de préparation à la vie éternelle. C'est dès cette vie que nous sommes appelés à vivre de la vie éternelle, que nous sommes appelés, dès ce Béthanie en Transjordanie, que nous sommes appelés à une relation personnelle avec le Seigneur, qui trouvera, comme le dit l'Épître aux Corinthiens, la première Épître aux Corinthiens, chapitre 13, sa plénitude dans le ciel, cette relation personnelle avec Jésus. Voilà. J'espère que ce petit commentaire vous a un petit peu aidé. Donc retenez bien, hein, beaucoup de textes peuvent prêter le flanc à une interprétation meilleure, peuvent ouvrir une porte plus grande à l'Esprit Saint si nous avons conscience de ces trois projecteurs que sont l'interprétation morale ou anthropologique, donc la vie quotidienne, ou alors une dimension psychologique et intérieure. L'interprétation allégorique qui nous ramène toujours vers le centre des Écritures qui est le Christ et son amour, et l'interprétation anagogique qui nous rappelle ce pourquoi nous sommes faits, la communion avec Dieu qui trouvera sa plénitude dans le ciel. Alors maintenant je vous propose de prier si vous voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite je me joindrai à vous en priant à haute voix, et enfin je vous laisserai un nouveau temps de prière, de silence, pour vous permettre de faire votre cette prière. Ô Seigneur, apprends-nous à lever les yeux au ciel. Donne-nous la vraie valeur de cette vie qui est le lieu de la rencontre avec toi, toi qui te tiens au milieu de nous. Oui Seigneur, que nous ayons toujours les yeux fixés vers toi pour mieux vivre de toi et te faire connaître par une vie de charité plus vraie et de prière plus ardente. Seigneur, apprends-nous que la véritable vie, c'est ce qui se passe dans le cœur des hommes. C'est là où travaille ta grâce, au-delà des apparences. Alors que ce regard nous apprenne davantage quelles sont les vraies armes qui sont amour et prière. C'est par ces deux armes-là que le poids de notre personnalité, le poids de notre témoignage pourra vraiment trouver sa juste mesure. Oui, aide aussi l'Église à mieux se rendre compte que ces deux armes sont les seules dont elle a besoin, malgré les apparences. Et enfin, Seigneur, nous prions pour que ceux qui essayent de te rencontrer à travers d'autres religions vraiment restent ouverts à la grâce qui les dépasse, qui est déjà en eux. Oui, toi qui te tiens au milieu d'eux, qui ne te connaissent pas. Oui, vraiment, que ces religions, au lieu d'être des obstacles, soient des tremplins sur lesquels le chemin pourrait être aplani pour que, enfin, un jour, ils te rencontrent. Et c'est dès maintenant, dans ce Béthanie de Transjordanie, que cela prend corps par notre prière pour nos frères musulmans, juifs, hindous et bouddhistes. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes.